Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Ce projet de Green Dock, il est relié à un méga projet plus large. C'est là que ça peut devenir un truc comme la 69 ou le méga canal. C'est un truc qui s'appelle Aropa, pour le Havre, Rouen, Paris. Et c'est l'idée d'utiliser la Seine comme un axe logistique et de créer une espèce d'autoroute fluviale là-dessus et de faire plein d'entrepôts partout sur tous ces territoires-là.
Aropa, encore un gigantesque projet inutile et monstrueux. Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est la voix off.com et pour votre radio libre préférée, on va aujourd'hui passer l'heure à venir avec un opposant à Green Dock, projet d'un immense entrepôt inutile et nuisible sur le port de Gennevilliers, à 5 km de Paris. Green Dock, qui n'a rien de vert, n'est même pas destiné au transport fluvial, mais aux fret de 2500 camions par jour selon l'estimation. Cette horreur Green Dock, en pleine ville, ne serait que l'une des pièces du délirant projet Aropa, détruire des milieux et des terres agricoles, transformer des cours d'eau en autoroutes fluviales, bien rectilignes, bordées de plateformes logistiques et autres installations industrielles. Et il est donc logique qu'on parle à nouveau ici aussi du mortifère méga-canal Seine-Nord-Europe, car tous ces grands projets inutiles sont liés entre eux au service de l'empire logistique.
Ce dont on veut pas, c'est l'empire logistique. Donc l'empire logistique, c'est ces flux là qui nous passent au-dessus et dont profitent les grands groupes. Une origine et une continuité coloniale, prendre la richesse à des endroits loin sur la planète et à la ramener chez nous, bref, il y a une vraie logique coloniale dans tout ça. Donc l'empire logistique, c'est ce qu'on veut pas. Nous, ce qu'on a besoin, en Ile-de-France, c'est particulièrement fort, c'est de l'approvisionnement. On va pas, nous, se mettre à fabriquer tous nos objets et à consommer tous nos légumes. On vit dans une zone qui est hyper urbanisée. Donc on a besoin d'approvisionnement. Donc nous, on met en place, par exemple, un contre-projet, c'est le cas aussi pour Méga Canal, pour que ces zones-là servent à des formes de logistique qui nous aident. Et c'est pas de la logistique, c'est de l'approvisionnement. Nous, sur le port de Gennevilliers, on voudrait qu'il y ait un emplacement pour un entrepôt de la sécurité sociale de l'alimentation. Ça, il y a besoin de logistique pour acheminer les légumes jusque chez nous. Mais pas un énième entrepôt d'un promoteur immobilier qui va louer des sous-traitants logistiques, on sait même pas ce qu'ils vont faire à l'intérieur. Pas ce genre de logistique.
Octobre 2025, après la traversée de Paris sur la Seine, l'expédition Bateau Labo fait escale sur l'île Saint-Denis dans le 93 et s'amarre à une péniche. Bateau Labo, c'est un équipage de marinières et de mariniers, scientifiques, artistes, qui naviguent en direction du Danube à bord de la Fillonnerie, chaland de Loire en bois tel qu'on les faisait au 19e siècle. Un bateau parti de Région Centre en septembre 2025. Et c'est à l'occasion d'une conférence organisée par Bateau Labo qu'on rencontre l'un des membres du collectif Stop Green Dock. Bonjour.
Bonjour et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent.
Alors Green Dock, c'est quoi ?
Green Dock, c'est un projet d'entrepôt géant, vraiment géant, ça fait 600 mètres de long et 35 mètres de haut sur les berges de Seine, vraiment collé à la Seine, c'est à 4 mètres de l'eau au plus proche des constructions. Et projet d'entrepôt, alors qui s'appelle Green Dock, c'est vraiment un greenwashing éhonté, comme on le voit souvent, c'est absolument pas green, c'est un entrepôt logistique, une usine à camions, ce qui est prévu par le promoteur immobilier lui-même, parce que c'est un promoteur immobilier qui veut le construire, c'est 2500 véhicules jour, et donc beaucoup de camions, donc c'est absolument pas green, et c'est même pas dock, en fait ils ont appelé ça Green Dock, parce qu'au début c'était présenté comme un entrepôt fluvial, pour faire du transport fluvial, avec l'idée que forcément c'est bien le transport fluvial, ce qui peut être le cas, mais pas toujours, mais là c'est même pas fluvial, en fait, c'était vraiment pour faire passer la pilule que ce terme a été utilisé. Maintenant, on sait qu'il y a moins de 10% de fluvial, tout le reste, c'est du camion. Et donc, depuis 2-3 ans maintenant, il y a une lutte locale qui s'est montée autour de ce projet d'entrepôt géant, qui est peut-être moins connu que A69 ou Méga Canal, parce que c'est quand même moins gros, c'est pas une infrastructure à l'échelle nationale, mais c'est quand même une infrastructure logistique, et de ce point de vue-là, ça fait bien la connexion entre ces luttes-là. L'empire logistique, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, est en train de ruiner nos vies et nos espaces de vie. Et ça vaut aussi pour le 93 où on est, là, donc en pleine banlieue nord, tout près de Saint-Denis, des territoires de résistance et de lutte qui sont bien connus, moins connus pour les sujets écolos, mais ça y est, c'est parti là.
Cette conversation a lieu fin octobre 2025, 15 jours après la grande mobilisation anti-mégacanal de Longueuil-Enel, dont cette émission vous a déjà beaucoup parlé et dont on va reparler maintenant. Car il y a évidemment des rapports entre Green Dock et le grand canal Seine-Nord Europe. Ces deux grands projets d'infrastructures inutiles et hors de prix ont aussi en commun d'être imposés de force dans un assourdissant silence médiatique. Quasiment personne n'a entendu parler ni de Green Dock, ni de méga-canal à 10 milliards d'argent public. Silence radio.
Ouais, mais ça, c'est un des enjeux du rapport de force et des luttes locales, quoi. C'est de faire connaître des projets pour lesquels tout est fait pour que ça passe sous les radars, quoi. Pour donner un exemple, Green Dock, nous, c'est des riverains qui se sont rendus compte de l'existence de ce projet un peu par hasard. C'était annoncé nulle part. Et maintenant, localement, c'est quand même un sujet. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est au courant, mais c'est un sujet. C'est discuté dans plein d'espaces. Et je pense que c'est le cas aussi du méga-canal. Le méga-canal, c'est vraiment un projet d'envergure nationale. Et le coût, là, des 10 milliards, va faire que d'une manière ou d'une autre, si la lutte continue, ce sera le cas. Ça va finir par être connu, tout comme la 69 est devenue un sujet national, comme avant, le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes était devenu un sujet national. Moi, je m'inquiète pas trop, on sait faire, mais on part toujours de loin, parce que c'est volontaire, quoi. Il n'y a aucune volonté de donner un peu place aux habitants sur les territoires pour décider de si oui ou non ils veulent ou pas de ces grands projets-là, quoi.
Le projet Green Dock, c'est de l'argent public ?
Non, Green Dock, c'est de l'argent privé. C'est un promoteur immobilier qui va faire de la financiarisation. Ce qui est public, c'est qu'il utilise un espace, les berges de Seine, dont on profite toutes et tous ici. Franchement, en banlieue nord, des espaces de nature, il n'y en a pas beaucoup. Celui-ci, il est joli. Juste en face de l'entrepôt, il y a une zone Natura 2000 avec une réserve ornithologique. C'est la seule zone Natura 2000 de la petite couronne. Donc, c'est pas de l'argent public, mais ça bouffe quand même de l'espace public.
Du commun, donc.
Ça bouffe du commun, voilà, c'est ça. Mais par contre, ce qui est intéressant dans ce que tu disais, cette idée qu'en fait, c'est complètement déconnecté au territoire. Parce qu'il y a toujours l'idée qu'on va sauver des territoires perdus avec ce genre de grands projets, en créant des emplois, de l'activité, etc., etc. Et en réalité, c'est vraiment pas le cas. Alors déjà, ça crée pas beaucoup d'emplois pour beaucoup d'argent. Et puis, c'est souvent des emplois pourris. Hein. Méga-canal et Green Dock, c'est des emplois dans la logistique, dans les entrepôts logistiques. C'est le secteur où il y a le plus d'accidents du travail et de maladies professionnelles en France. Le secteur où il y a le plus d'intérim. C'est un secteur hyper pénible, où il n'y a pas d'évolution de carrière possible, très ouvrier. Et en fait, il y a vraiment un délire quand même des décideurs publics de se dire, voilà, on a ces territoires perdus, périphériques, ils appellent comme ils veulent, à qui on va refiler des activités un peu pourries. Et c'est déjà une vision des territoires qui est vraiment dégueulasse. Et puis en plus de ça, la déconnexion, c'est aussi... Donc tout ça, c'est de l'infrastructure logistique, c'est du flux. Mais les flux qui sont censés passer par ces espaces-là, ils ne sont pas liés au territoire. Dans quel sens? Je dis ça parce que souvent, nous, on nous répond « Ah ouais, entrepôt géant, mais on n'a qu'à arrêter de commander des colis. » Bon, c'est vrai, on peut arrêter de commander des colis, mais en fait, c'est pas ça le but de ces infrastructures, c'est pas ça leur principale utilité. Green Dock, c'est un hub logistique qui va recevoir des flux qui viennent de très loin, qui vont être stockés dans l'entrepôt et qui vont repartir très loin. Donc en fait, les grands groupes, ils utilisent ça pour diminuer leur coût de transport, c'est leur business à eux, c'est pas forcément connecté à nos modes de vie, et même nos modes de vie pas très cool, c'est-à-dire commander des produits Amazon. Et c'est pareil pour le canal Seine-Nord Europe, ce truc, il est destiné à exporter des céréales à l'international. Et donc ça n'a pas du tout d'intérêt du point de vue de l'approvisionnement du territoire, du point de vue de la relocalisation même, ça empêche de relocaliser tout ça. Et donc il y a vraiment une déconnexion totale. Et c'est cool de la souligner et de ne pas toujours dire que c'est notre faute parce qu'on commande des colis ou parce qu'on utilise la logistique. Alors on a besoin un peu de logistique, mais la logistique qu'ils font eux, c'est vraiment rien à voir avec ce qui se passe sur un territoire.
On voit ça autour de tout ce qui est grand projet inutile. On y va, on passe en force. Avec un peu de chance, les citoyens, citoyennes ou les gens ne s'en rendront pas compte et seront mis devant le fait accompli. Peu importe ce que pourrait dire je ne sais quel tribunal administratif, le temps que des citoyens et citoyennes et que des gens se réveillent, les travaux seront déjà finis. On l'a vu par exemple sur la 69, sur les bassines par exemple. Une fois qu'elles étaient finies, remplies, le tribunal administratif a dit non, c'est illégal. Et là, c'est la même méthode aussi.
Nous, on est quand même dans une situation un peu différente pour l'instant que la 69 ou le méga canal par exemple, parce que c'est encore un projet local et pour l'instant c'est le maire de Gennevilliers qui porte ce projet. Il s'appelle Patrice Leclerc, vous irez lui faire coucou si vous voulez. Et Patrice Leclerc, en fait, c'est un maire communiste qui par ailleurs sur sa commune défend des choses qui sont intéressantes, hein. Par exemple, c'est un grand soutien de la Palestine, etc., etc. Donc nous, le combat, il est un peu différent de ce point de vue là ce maire, il croyait sûrement à son projet au début, il y croit de moins en moins, il a fait plein de déclarations publiques suite à la mobilisation, hein, le rapport de force, là, un peu isolé. Comme quoi, bon, peut-être qu'il n'allait pas déposer le permis de construire. Tous les gens autour de lui, la CGT, les syndicats, tout le monde lui a dit qu'il faut arrêter. C'est une manière de montrer aussi que l'emploi, ça ne marche pas, parce que nous-mêmes, les gros syndicats, ils sont contre le projet d'entrepôt géant. Et donc, on espère encore qu'il peut basculer. On a vraiment cette idée que, possiblement, il peut revenir vers nous et se dire « Ok, c'est bon, on arrête. » Et on espère qu'on peut gagner cette lutte comme ça. Après, ce qui peut se passer, c'est que lui, il peut refuser de déposer le permis de construire. Ça va jouer dans les mois à venir, là. Et par contre, ce projet de Green Dock, il est relié à un méga projet plus large. C'est là que ça peut devenir un truc comme la 69 ou le méga canal. C'est un truc qui s'appelle AROPA. AROPA, c'est pour le Havre-Rouen-Paris. Et c'est l'idée d'utiliser la Seine comme un axe logistique. Il y a vraiment cette vision que la Seine est un axe et de créer une espèce d'autoroute fluviale là-dessus et de faire plein d'entrepôts partout sur tous ces territoires-là. Et ça, ce projet, il est porté par Édouard Philippe. Il est soutenu par l'État. Et là, possiblement, ce qui pourrait se passer, c'est que si le maire refuse de signer le permis de construire, ce qu'on espère, on pourrait basculer dans une autre phase où, en fait, AROPA, Édouard Philippe et tous ces grands méchants-là forcent. Et on basculerait dans un autre rapport de force, quoi. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là.
Mais ce serait pas un projet qui serait aussi un peu en concurrence avec le méga canal? Enfin, ils veulent en faire partout et ils se tirent la bourre entre eux, c'est ça? Et entre gens supposés être du même camp en plus.
Ouais, bah au départ ils étaient très fâchés, hein, parce que donc Édouard Philippe, il avait son projet AROPA, le Havre en Paris, et l'autre côté, du côté du Nord, c'était Xavier Bertrand qui avait son projet du canal Seine-Nord-Europe. Dans les deux cas, l'idée c'est de créer un méga corridor logistique pour concurrencer le port de Rotterdam. Alors déjà, séparément, pour chaque projet, cette idée est complètement absurde. Ils ne vont jamais atteindre ce truc-là, parce qu'on n'atteint pas comme ça des volumes de flux en claquant des doigts, quoi. Donc ce n'est pas possible. Mais les deux en même temps, ça n'a plus aucun sens, parce que les deux vont se faire concurrence. Donc au départ, ils étaient très fâchés l'un contre l'autre à cause de ça. Et puis, depuis un moment, il semblerait, enfin on le sait en fait, hein, qu'ils se soient mis d'accord pour ne pas se taper l'un sur l'autre et pour faire les deux. Et les deux ensemble, ça n'a vraiment aucune raison d'être, ça n'arrivera, enfin ils vont jamais réussir. Enfin ils vont le faire, mais en fait ce sera sous-utilisé, c'est des infrastructures qui sont destinées à finir dans les ruines du capitalisme.
L'argument de « oui, mais le fluvial, c'est cool, c'est écolo, ça fait moins de camions », c'est complètement faux. Les méga canals non merci, en fait, ont estimé qu'au mieux, si ce canal méphitique se faisait, au mieux, on aurait le même nombre de camions qu'aujourd'hui. Parce que, comme tu le disais, sur tout le trajet, il y a des infrastructures, il y a des ports. Et bien sûr, ces ports sont desservis par des camions.
Ben oui, c'est tout le truc, quoi. Alors déjà, il y a un truc qui est vraiment intéressant à comprendre pour le méga canal en particulier, c'est qu'on ne met pas du tout les mêmes marchandises sur les camions que sur les bateaux. Sur le fluvial, on transporte du vrac. Et le vrac aujourd'hui, le très très gros du volume, c'est des céréales pour l'export, donc ça c'est l'agro-industrie qui joue avec ça, et du BTP. Dans un sens, du sable, à Paris c'est très fort, hein, du sable pour le Grand Paris et des gravats qui ressortent dans l'autre sens, quoi. Donc c'est pas les mêmes types de flux. Et puis de toute façon, sur tous ces projets-là, aujourd'hui il n'y a pas du tout l'idée de remplacer un mode de transport par un autre. La seule vraie idée, c'est de faire toujours plus de logistique. Donc même quand c'est du fluvial, si la logique c'est faire plus de logistique, à la fin ça accélère les bateaux, oui, il y aura plus de bateaux, mais il y aura aussi plus de camions, plus de logistique, plus de pollution, plus de CO2, plus aussi de consommation très lointaine et moins de relocalisation. La logistique, ça empêche la relocalisation. Donc nous, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que l'enjeu, c'est de transformer la logistique. Pour ça, on utilise deux termes. On dit, ce dont on veut pas, c'est l'empire logistique. Donc l'empire logistique, c'est ces flux-là qui nous passent au-dessus et dont profitent les grands groupes, avec aussi une origine et une continuité coloniale. C'est pour ça le terme empire, il est pas mal, parce que ça sert à prendre la richesse à des endroits loin sur la planète et à la ramener chez nous. Bref, il y a une vraie logique coloniale dans tout ça. Donc l'empire logistique, c'est ce qu'on veut pas. Nous, ce qu'on a besoin, en Ile-de-France, c'est particulièrement fort, c'est de l'approvisionnement. On va pas, nous, se mettre à fabriquer tous nos objets et à consommer tous nos légumes. On vit dans une zone qui est hyper urbanisée. Donc on a besoin d'approvisionnement et donc nous, on met en place, par exemple, un contre-projet. C'est le cas aussi pour Mégacanal. Pour que ces zones-là, qui sont des zones industrielles qu'on ne va pas renaturer du jour au lendemain, mais qu'elles servent à des formes de logistique qui nous aident. Et ce n'est pas de la logistique, c'est de l'approvisionnement. Par exemple, truc très simple, nous, sur le port de Gennevilliers, on voudrait qu'il y ait un emplacement pour un entrepôt de la sécurité sociale de l'alimentation. Vous savez, ce système-là qui permettrait à tout le monde de trouver des légumes à pas cher comme la sécurité sociale. Et ça, il y a besoin de logistique pour acheminer les légumes jusque chez nous. Et donc ça, on veut bien qu'il y ait un entrepôt de la SSA sur le port de Gennevilliers, mais pas un énième entrepôt d'un promoteur immobilier qui va louer des sous-traitants logistiques, on sait même pas ce qu'ils vont faire à l'intérieur. Pas ce genre de logistique, quoi.
Ça fait plusieurs fois que tu fais référence à un nous. Qui est ce nous?
Alors c'est un nous multiple. Le nous, c'est les riverains. Donc moi, j'habite ici et donc je fais partie des riverains qui sont opposés à ce projet. Donc il y a un collectif qui s'appelle Stop Green Dock. Et dans Stop Green Dock, il y a plein de monde. Donc il y a des riverains, des associations environnementales. Et donc il y en a plein, je ne vais pas toutes les citer, ça va être un peu long. Mais il y a aussi les soulèvements de la terre. Le comité local des soulèvements de la terre dont moi je fais partie, qui s'appelle Pleine Tempête, qui est le comité de la banlieue nord.
Pleine, il y a un jeu de mots, hein, PLAI.
Voilà, c'est la Plaine Saint-Denis, qui était une plaine agricole anciennement. Et donc Pleine Tempête, c'est un comité qui s'est beaucoup investi sur cette question-là de Green Dock au départ, mais qui très vite a souhaité de ne pas s'arrêter juste à un projet d'entrepôt pour éviter un peu cet effet NIMBY, là, not in my backyard, donc ok, les entrepôts, mais pas chez moi. Nous, en fait, on s'est intéressé au sujet de la logistique d'une façon beaucoup plus large, et ça a donné plein de choses différentes. Ça a donné un soutien aux ouvriers de la logistique. On a beaucoup soutenu les grèves sur le port de Gennevilliers. Et donc, dans le nous, il y a aussi la CGT. La CGT du 92 et du 93. Solidaire aussi dans le 92 et le 93. Se sont impliqués dans cette lutte-là. Et nous, on a appris plein de choses à faire des alliances avec les ouvriers. Et en plus, on a des choses qu'on partage, du genre aimer bloquer le port de Gennevilliers et les entrepôts. Et donc, il y a aussi ça dans ce nous-là. Dans le nous aussi, il y a les autres luttes qui sont sur le bassin versant de la Seine et qui ont toutes, et c'est vraiment l'infrastructure du capitalisme qui fait ça, toutes les luttes avec lesquelles on travaille sur le bassin de la Seine, on a tous un problème avec la logistique. Donc il y a le méga canal, on en a parlé. Il y a une lutte aussi à l'Abassé, c'est au sud de la région parisienne, où il y a une volonté de rectifier la Seine. C'est un endroit où la Seine fait des méandres, ils veulent la rectifier pour faire passer des plus gros bateaux. Il y a la lutte de Gonesse aussi. À Gonesse, il y a un projet d'artificialisation depuis longtemps et une lutte très ancienne qui se mène là-bas. Et ce grand nous, maintenant, on l'appelle les soulèvements de la Seine. Et l'acte du méga canal dont tu parlais, c'était l'acte final d'une campagne d'action, d'une saison, qui s'appelait les soulèvements de la Seine, dans laquelle étaient représentées toutes ces luttes.
Et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme.
Avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons absolument combattre.
Malgré ce que des gens nauséabonds ont pu dire là au sujet donc des luttes environnementales, le verbiage crétin de éco-terroriste, alors ça nous faisait ricaner il y a quelques années, puis en fait de constater aujourd'hui que ça prend dans les têtes, donc ne ricanons pas trop, mais on a bien compris que les soulèvements de la terre ça, sont des gens qui travaillent sans armes, et l'idée c'est bien de remporter, alors, je ne sais pas si j'ai le bon terme, mais disons la bataille de l'opinion publique.
Rebondir un peu sur éco-terrorisme, parce qu'il y a un enjeu important sur ces histoires de criminalisation, des luttes et d'accusations de terrorisme, c'est important de dire que ce n'est pas les écolos qui ont été accusés en premier, c'est d'abord les luttes des quartiers, les luttes des quartiers populaires, les luttes pour la Palestine en ce moment qui sont accusées de ça, et que c'est hyper important de construire des ponts entre tout ça, parce que c'est toujours eux, elles et eux, qui sont touchés les premiers, nous, il faut être là pour les soutenir, et puis on voit que de toute façon, nous aussi, ça finit par nous toucher, par ricochet, mais il y a des très gros enjeux de se tenir ensemble aussi sur ces terrains-là.
Pour reprendre la chronologie de l'histoire de cette lutte particulière donc contre Green Dock, tu disais ce sont des riverains, habitantes et habitants, qui ont découvert le truc quasiment par hasard. C'était quand et ça s'est fait comment?
Alors ça s'est fait en 2021-2022, les toutes premières informations qui ressortent, quoi. Et au début, on ne sait presque rien. Quand les premières infos ressortent, il me semble que c'est début 2022, il y a vraiment ce truc de « c'est un entrepôt fluvial ». Et c'est présenté comme ça partout. Et ce qui fait tiquer quand même les riverains, c'est la taille. Même si c'est fluvial, un entrepôt de 35 mètres de haut, ça les fait réagir. Donc à l'époque, c'est ça qui lance un peu la lutte locale. Et avec ce problème que c'est 35 mètres de haut, juste en face d'une zone Natura 2000. Le projet d'entrepôt est tellement haut qu'il va mettre sous l'ombre la zone Natura 2000 toute une partie de l'année. Il y a eu plein d'études qui ont été faites, d'abord par nous sur ça, après par l'autorité environnementale, qui est une autorité indépendante. Et en fait, la réserve ornithologique avec tous les oiseaux qui sont sur place, avec l'entrepôt, elle n'existe plus, quoi. C'est très clair. Donc c'est un peu ça qui a lancé la lutte au départ. Et puis petit à petit, les informations sont remontées. Mais il a fallu aller les chercher, il y a eu des demandes des rendez-vous avec le promoteur, avec les gestionnaires du port de Gennevilliers, avec Aropa et tout ça. Et plus les rendez-vous avançaient, plus le truc tombait, quoi. On se rendait compte que niveau travail, c'était pas terrible, que de toute façon, c'était même pas du fluvial, que la renaturation des berges, ils avaient promis ça au début. Ils avaient dit, hein, on va faire un bel entrepôt et on va renaturer toute la berge le long de l'entrepôt. Aujourd'hui, on sait que les constructions vont approcher jusqu'à 4 mètres de l'eau. Quand t'as 4 mètres entre l'eau et le bâtiment, renaturer les berges, c'est une grande blague. Et tout est tombé comme ça. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus grand monde pour défendre ce projet-là.
Mais ils ont répondu parce que vous avez posé des questions ou ils ont organisé des réunions d'information publique ?
Il y a eu des réunions d'information publique, mais qui ont été exigées par les riverains. À chaque fois, à chaque étape, c'est toujours la mobilisation qui a obtenu des espaces de discussion. Et à chaque fois, ces espaces de discussion, c'est une vaste blague. Par exemple, au tout début du projet, il était prévu une ferme urbaine. Il fallait vraiment que ce soit green, donc ils avaient prévu une ferme urbaine. Mais la ferme urbaine, ça faisait monter le bâtiment encore plus haut. Dès les premières réunions, ils ont dit « Bon, on a compris, vous n'êtes pas contents les riverains, on vous fait une concession, on enlève la ferme urbaine et on diminue de quelques mètres le bâtiment. » Et ils ont présenté ça comme « Voilà, regardez, vous avez gagné. »
C'est hyper généreux en fait.
C'était incroyable. Je pense qu'elle n'a jamais existé cette ferme urbaine. C'était un truc qui était tout prêt dès le début pour la négociation. Et donc voilà, il y a toujours des espaces où on nous fait croire qu'on peut discuter, mais en réalité, c'est le rapport de force qui a fait bouger les choses. Et le fait que de plus en plus de monde se mobilise localement, il y a eu plein d'actions, plein de manifestations. Une grosse manifestation, notamment, où il y a eu 2000 personnes en 2024 à Gennevilliers, avec des actions de blocage logistique, etc., etc. Et ça devient un vrai sujet, quoi.
C'est ça qui est évoqué dans Première Secousse, le bouquin des soulèvements, cette grosse manifestation ?
Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'acte Green Dog qui est évoqué. Avec peut-être une particularité, c'est que dans les grands actes nationaux qui étaient portés par les soulèvements, Green Dog, c'était le premier, je crois, qui était vraiment dans une zone urbaine dense, sur un projet qui était un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. C'était une manif qui n'était pas une manif à la campagne comme les Bassines ou d'autres manifs de ce type. C'était une manif dans le 92 et 93, on est à la frontière, en banlieue nord de l'Île-de-France. Et nous, quand on a commencé à penser cet acte-là, il y a eu toute une réflexion de se dire... En fait, c'est quoi les soulèvements dans le 93 ? Parce que les soulèvements dans les Bassines, on voyait bien, dans le Poitou, on voyait bien, mais dans le 93, c'est un peu autre chose. Et donc voilà, assez vite, en fait, dans cette réflexion, c'est la logistique qui est ressortie comme le truc qui ferait sens pour les soulèvements dans une banlieue nord, avec cette idée que dans la métropole, les flux logistiques, c'est là qu'on peut aussi attaquer l'infrastructure, faire bouger des choses et chercher un point concret où faire peser un rapport de force.
L'une des nombreuses choses qui ressortent dans cette lutte Stop Green Dock, c'est cette alliance et cette rencontre entre des personnes militantes de divers horizons et le monde du travail, le monde ouvrier et le monde syndical. Maintenant, ça me revient. C'était d'ailleurs assez émouvant à lire parce qu'on aurait pu se dire que tout ça, c'était des univers, l'écologie de gauche radicale et puis les camarades prolétaires qui luttent pour leur pouvoir d'achat et tout ça est très compartimenté. Une convergence et une vraie rencontre. Et c'était très bien raconté dans le bouquin.
Ouais, c'est une super rencontre avec plein de blagues, comme tu l'as dit. T'as dit rencontre entre écolo et ouvrier, mais la nouvelle blague, c'est qu'eux disent sans arrêt, quand on se voit sur des piquets, ils disent « Mais c'est nous les vrais écolos !» Et nous disent « Mais non, c'est nous les écolos !» Enfin, il y a des blagues comme ça qui se sont... C'est une super rencontre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le début, nous, on s'est dit on va aller voir l'union locale de Gennevilliers, l'union locale CGT, en sachant qu'elle a une belle histoire, cette union locale, que certaines d'entre nous la connaissaient déjà. C'est une union locale un peu anarcho-syndicaliste, quoi. En réalité, je sais pas si ce serait d'accord avec le terme, mais qui a toujours mené des combats ouvriers sur le port et à d'autres endroits dans Gennevilliers. Et quand on a été les voir, nous, on marchait sur des œufs quand même. Qu'est-ce qu'ils vont dire de cette histoire d'entrepôt logistique ? Et en fait, pas du tout. Hein. Toutes nos inquiétudes ou petits stress, en fait, se sont très vite tombés. Eux, on leur a expliqué c'était quoi le projet d'entrepôt et très vite, ils ont dit « Ok, c'est de la merde, qu'est-ce qu'on fait ?» Par exemple, c'est eux qui nous ont poussés à mener le contre-projet sur le port de Gennevilliers et dire « Faut pas rester juste à cet entrepôt-là, on va parler de tout le port de Gennevilliers. » Et donc, dès le début, ça a été vite et ça a été très vite. Et puis, eux sont venus, donc les ouvriers, en particulier les ouvriers d'un très gros entrepôt du port et d'une très grosse boîte française, c'est le leader de la logistique en France, qui s'appelle Geodis. Et les ouvriers de Geodis Gennevilliers sont venus quand on a fait notre manif en 2024, ils étaient à la manif, ils sont venus au débat avant. Ils ont participé, ils ont mené des actions, on a réfléchi à des actions avec eux à ce moment-là déjà. Et c'était déjà une super rencontre autour du blocage et du feu de palette, qui est vraiment un point de rencontre pour nous qui marche très très bien. Puis après, la rencontre elle s'est faite dans l'autre sens, elle s'est approfondie dans l'autre sens. Cette année-là, en 2025, en février-mars, eux, ils ont mené une grosse grève d'un mois. Un mois de grève dans un entrepôt logistique, c'est très rare. Mmh. Un entrepôt logistique en banlieue nord. Hein, donc
quelle était leur revendication salariale ?
C'était les salaires. Les salaires sont hyper bas. Comme ils sont forts, c'est un entrepôt, ils sont forts. Il y a 90% CGT, ils ont l'habitude de mener des gros combats. Ils demandaient, je crois que c'était 200 euros de salaire et ils ont obtenu 150. Okay. Sur un mois de grève, quand même, ça valait le coup. Et en fait, nous, on a beaucoup, dès le début, été en soutien de cette grève. On a mené des actions en soutien à cette grève, des actions de blocage de l'entrepôt. Et ça, c'est un mois de rencontres et d'intensité très, très fort. Faut imaginer, c'est une énorme zone. C'est pas un port, hein, c'est que des camions. C'est une énorme zone logistique dont on se retrouvait à passer des nuits entières, parce que ça travaille beaucoup la nuit, sur le port de Gennevilliers avec elle et eux, à manger des merguez et progressivement des saucisses véganes qu'on avait ramenées, parce que chez nous, tout le monde mange pas de viande. Ce qui est de nouveau l'objet d'une blague. Et on y est retourné encore cette semaine. Là, mercredi, il y avait un rassemblement. Ils ont gagné leur grève, mais les patrons, ils sont mauvais joueurs dans la logistique. Donc, il y a plein de répression dans l'entrepôt. Il y a eu des sanctions, des licenciements. Donc, on a refait un rassemblement cette semaine. Et au rassemblement de cette semaine, il y a les greniers des soulèvements de la terre qui ravitaillent les luttes, qui sont venus rapporter des cagettes de légumes récupérées chez des maraîchers camarades de l'Île-de-France. Le piquet de grève a été ravitaillé comme ça, en poireaux, tomates, il y avait des pommes, etc. Il y avait plein de trucs, quoi. Et à chaque fois, voilà, on passe des caps avec elle et eux, et c'est toujours très chouette, quoi.
Les greniers, c'est des gens, comme tu le disais, des maraîchers, ou tout simplement des gens qui s'y mettent et qui, ici et là, cultivent de la terre pour produire des légumes, pour alimenter les luttes. Donc c'est très chouette, quoi. Il y a une vraie rencontre, une vraie alliance, et qui perdure, quoi, jusqu'à là, au moment où on se parle, quoi.
C'est vraiment génial. Dans la semaine. Et puis comme il y a le contre-projet qui est en cours, on se voit très régulièrement pour ça, parce que nous, le point de départ du contre-projet, on se méfie un peu des contre-projets qui partent du haut. Il y a un peu un réflexe à faire les urbanistes quand on fait des contre-projets, parce qu'on a l'impression que c'est plus sérieux quand ça ressemble à un rapport, à un document d'urbaniste. Nous, on est parti d'un truc, on veut essayer de faire, on appelle ça de la planification par le bas, et ça veut dire qu'on rencontre les ouvriers pour leur demander comment ça marche. Cette idée que c'est eux qui ont le savoir-faire sur la logistique, qui permettra de transformer les infrastructures, de les supprimer quand il faut les supprimer, mais de les transformer quand on peut les transformer. Donc on passe beaucoup de temps avec elle et eux là-dessus, sur des détails techniques parfois, du transport, sur le fret ferroviaire. Vous s'imaginez, le port de Gennevilliers, c'est traversé par des rails. Il y a toute l'infrastructure qu'il faut pour amener des trains, et il n'y a plus de trains. Il y a un train de temps en temps qui passe, c'est ridicule, alors que le port est énorme. Alors qu'il y a encore 10 ans, il y en avait. Ça a diminué et maintenant, ça a presque disparu. Et donc, eux, ils connaissent l'histoire de ça. Ils savent quand est-ce que tel train a disparu, quand est-ce que tel embranchement s'est arrêté. Et donc, on bosse avec eux là-dessus, quoi.
Bon, là, tu m'as tendu une perche en béton armé pour passer un petit bout de planète boum boum, hein, du fret, avec notamment Julien et ses camarades de Sudrail.
Qui participent aussi au contre-projet de Green Dock.
Voilà. Planète boum boum.
La clientèle libérale, le chef Macron la régale. Service public étoilé devient buffet à volonté. Le privé a toujours faim, il veut même bouffer nos trains. Pour que le capital graille, la SNCF déraille. Nous, on a des goûts basiques, on aime le service public. Les bonnes recettes de grand-mère, on veut du fret ferroviaire. Du fret, du fret, du fret, du fret, du fret. Du fret ferroviaire, du fret, 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 du fret ferroviaire.
Il y a toujours une bonne occasion de passer du planète boum boum.
On a des playlists logistiques aussi, si tu veux. Il y a eu tout un truc avec la logistique et le rap français depuis 10-15 ans. Il y a plein de tubes du rap français qui parlent de logistique. Les rappeurs français, ils ont parlé de la logistique et des entrepôts avant que ça devienne un sujet médiatique, avant qu'on parle d'Amazon et tout. Ils en ont parlé en premier. En gros, ils ont remplacé la figure de l'ouvrier traditionnel qui était celui de l'usine automobile, le travail à la chaîne, dans leurs paroles, par les entrepôts, les palettes et les transpalettes, avant que ce soit un sujet d'actualité.
T'enfiles tes pompes de sécu, depuis combien de temps tu sais plus. Tout ce que tu sais c'est que les plumes que t'y laisses repousseront plus. T'es sur les jantes, les rotules, et face au vent tu recules. Face aux gens tu refuses, ces mains qui te sont tendues. Tu bois encore, tu refumes, tu trouves pas mieux comme refuge. Les bras de ta femme te répugnent, même quand t'en as plein les purs. Infranchissable, t'as pris la vie comme une dune. Que tu te vois plus grimper, les chaussures pleines de sable. Tu vois que le verre à moitié vide, ta vie comme de la merde. Et le quotidien va pas dans ton sens, comme ta fiche de salaire. T'affiches une mine détestable, un air avec ses crabes. Et ta mauvaise humeur empiète sur ta vie familiale. T'as perdu le sourire de tes mômes, tu n'as plus que leur soupir. Ton corps est un hématome qui n'a pas fini de pleuvoir. Ta présence est un poids lourd comme ces camions que tu vis. Donc ta moitié s'en est allée pour avoir une chance de vivre. Tous les matins ton réveil est un pénible effort. Coupé
tombé dans ces rêves où tu roulais sur l'or. Tu montes dans ta voiture à triste décor. Des fils sous tes yeux, mais tu dois rester fort. Tu fais tes 8 heures dans une ambiance hardcore. Un travail pour manger qui nourrit tes remords. Tu rentres épuisé, fatigué de ton sort. Tu voudrais dormir, mais t'es déjà mort.
Nivek, déjà mort. Pour évoquer l'enfer de l'esclavage moderne en vigueur dans l'empire de la logistique qui broie des vies, des corps et des âmes. Oh oui, il y a quelques boulots promis par le méga canal ou par le projet Green Dawn.